We do biz.
We do biz.
Devenons business.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission de We Do Biz, l'émission Le Jukebox de ma vie où j'ai la chance aujourd'hui de recevoir Franck Vidal. Franck Vidal, bonjour.
Bonjour Stéphane.
Franck Vidal, on vous connaît sur le monde de l'entrepreneuriat, on vous connaît sur le monde des écoles, je ne vais pas tout dire tout de suite. On vous connaît moins dans votre costume d'entrepreneur et je vous ai proposé de venir ce soir pour nous présenter plus en détail en tout cas ce vêtement que vous revêtez de manière assez permanente mais souvent sous un autre beaucoup plus visible, donc soit dans le monde de l'enseignement, soit sur une autre partie, mais j'en ai déjà beaucoup trop dit, je vais vous laisser vous présenter.
C'est compliqué de répondre à tout ce que vous dites. Je suis actuellement directeur d'une très belle école qui s'appelle Advancia Negocia, une école qui a un nom double, puisqu'en fait, elle est constituée de deux entités. Les deux sont deux grandes écoles. La première, très chère à mon cœur, puisque je peux dire que j'ai contribué à la créer, c'est Advancia. Et c'est sans doute d'abord à ce titre-là que vous m'avez invité, Stéphane, puisqu'Advancia, c'est l'école des entrepreneurs. Et j'ai la grande chance, en ayant contribué à la création de cette école, d'avoir vu naître beaucoup de projets, d'avoir vu se réaliser beaucoup d'entrepreneurs. Et je dois dire, sans tout dévoiler, que j'ai une particulière affection pour la radio qui m'invite aujourd'hui, puisque en grande partie, j'ai vu son projet naître, s'épanouir et puis parvenir à ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une grande radio pour les entrepreneurs.
Alors vous nous avez présenté Advancia, il y a aussi cette partie Negocia, peut-être moins connu du monde des entrepreneurs, mais qui est aussi un deuxième volet de cette école.
Negocia, c'est la sœur, j'allais dire, développement de l'entrepreneur, puisque Negocia va former des commerciaux, des responsables des ventes, des négociateurs qui vont opérer sur des marchés domestiques, mais essentiellement désormais sur des marchés internationaux. Et donc l'alliance entre l'entrepreneur et son projet et son entreprise, et puis le négociateur, le commercial, est à ce point évident que dans un même ensemble, dans une même institution d'enseignement, nous avons réuni Negocia, le commerce, Advancia, l'entrepreneuriat, bref, l'ensemble du développement de l'entreprise depuis son émergence jusqu'à sa prospérité internationale, si je peux dire.
Aujourd'hui, c'est combien d'étudiants ?
Aujourd'hui, c'est 2500 étudiants, 2000 jeunes étudiants en bachelor, donc formation en 3 ans, puis en master, 5 années après le bac.
Vous dites des jeunes étudiants, ça veut dire qu'il y a aussi des vieux étudiants ?
Ça veut dire qu'il y a également des adultes qui viennent se former et ils sont nombreux. Vieux, je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont sortis du système premier d'enseignement, donc ils ont déjà exercé soit comme entrepreneur, soit comme salarié. Et ils viennent chercher à l'école soit un titre, soit un diplôme, un certificat, bref, en tout cas des compétences que le corps professoral, que l'ensemble des intervenants de l'établissement peut leur donner, que ce soit bien sûr en matière d'entrepreneuriat, de management d'entreprise ou de développement, et notamment de développement commercial.
Bon, bah écoutez, je crois qu'on sait pratiquement tout sur Advancia Negocia. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet et on va remonter le temps, puisque vous allez nous parler de toutes vos aventures personnelles et entrepreneuriales. Mais vous allez répondre, quand on a préparé cette émission, je vous ai posé la question traditionnelle de l'émission. Donnez-moi une musique pour me dire d'où vous venez. Et là, vous avez fait un choix, vous avez pris un morceau, j'allais dire légendaire, en tout cas du sud de la France, qui est Tino Rossi, Méditerranée. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez fait ce choix ?
Parce que la Méditerranée ne m'est pas étrangère, ça va de soi. Je suis marseillais, je dis ça par simplicité, mais je suis en fait cassidin. Cassis est une petite ville près de Marseille, donc dans tous les cas, méditerranéen, c'est évident. Mes affinités, mes sympathies, mon attirance naturelle, elle est méditerranéenne. Donc au-delà de la Méditerranée, je force mon talent, parfois avec bonheur. Vous l'avez dit tout à l'heure, je dirige des écoles parisiennes, demain peut-être d'autres écoles ailleurs, au bord d'une autre mer. En tout cas, méditerranéen, je le suis. Alors pourquoi Tino Rossi ? Parce que certes, c'est mon enfance et ça dit d'où je viens. Certes, Tino Rossi, c'est aussi deux grands-mères qui étaient des fans absolus l'une et l'autre de Tino Rossi. Et j'allais dire qu'entre Tino Rossi et Luis Mariano, avec peut-être aussi un peu de Charles Trenet, j'ai là ma trilogie de chanteurs d'enfance qui ont bercé... qui ont bercé quoi ? De longues soirées. Alors ce qui est étonnant, c'est que l'une et l'autre femme... étaient des artistes accomplis, notamment musiciennes classiques, pour l'une d'entre elles notamment au piano. Et par contraste, elles avaient cet amour invétéré, notamment pour Tino Rossi, dont on peut pas dire que les chansons soient d'une élaboration musicale très très élevée. Mais cependant, il se passait quelque chose de fort entre elle et Tino Rossi. Et puis j'ai eu le grand bonheur de voir un jour Tino Rossi. C'était à Cassis, alors qu'il était en visite, parce qu'il connaissait, je crois, à l'époque, était un ami du maire de l'époque, enfin quelque chose comme ça. Et le grand Tino est apparu devant mes yeux ébahis d'enfant, et j'allais dire que mon premier contact avec une star, et c'était pour moi la star absolue à ce moment-là, c'était de pouvoir entreapercevoir le chapeau et l'écharpe de Tino Rossi.
Eh bien écoutez, on l'écoute tout de suite et on retourne avec vous dans le sud.
Sous le climat qui fait chanter tout le midi, sous le soleil qui fait mûrir les ritournelles, dans tous les coins on se croirait au paradis. Près d'une mer toujours plus bleue, toujours plus belle, et pour qu'elle ait dans sa beauté plus de douceur, une jardin lui font comme un collier de fleurs. Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, aux rivages sans nuages, au ciel enchanté. Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné ton décor et ta beauté. Méditerranée, au clair de lune, entendez-vous dans le lointain, comme un écho qui sur les vagues s'achemine. Entendez-vous le gai refrain des tambourins, accompagné du trémolo des mandolines. C'est la chanson qui vient bercer toutes les nuits les amoureux du monde entier qu'elle a séduit. Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, aux rivages sans nuages, au ciel enchanté. Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné ton décor et ta beauté.
Quel délicat cœur à la fin de ce moment musical. Ça représente vraiment une époque qui est un peu révolue. Il y a un côté quand même très désuet, mais ça fait partie quand même de notre patrimoine.
C'est une époque révolue, c'est une époque où la chanson est soit à texte, soit joyeuse. Et en l'occurrence, elle est joyeuse, assurément pas à texte. Le texte est, somme toute, assez simple, assez sommaire. Mais c'est une chanson qui a marqué son temps, on va dire.
Et que tout le monde connaît.
Et que tout le monde connaît encore, comme pas mal de enfin tout le monde, un certain nombre de personnes connaissent encore, notamment des amateurs, et ils sont, eux, de plus en plus nombreux, en revanche, d'amateurs de ce type d'opérette, de ce type de chanson. Et vous avez quelques rares scènes de ci, de là, qui reprennent de temps à autre ce répertoire. Donc il trouve son public, il sait aussi trouver son public.
Alors, on revient, vous nous avez décrit vos grands-mères, vous nous avez décrit en fait tout ce monde dans lequel vous viviez. Ça se passe à Cassis, donc c'est les Calanques, les cigales, il fait beau. Vous avez une enfance parfaitement heureuse et incroyablement épanouie. C'est vraiment une chance incroyable de vivre là-bas.
J'ai une enfance incroyablement heureuse et épanouie, c'est assurément vrai. J'ai une enfance au milieu d'une famille très nombreuse, dans de grandes maisons, avec beaucoup de liberté. Très tôt, je suis sur un bateau.
Tout seul ?
Tout seul, très vite.
C'est quoi ? C'est à quel âge ?
J'allais dire, mes parents, par exemple, m'ont interdit d'avoir une mobylette pendant très longtemps, voire même un vélo. Mais en revanche, le bateau, je pouvais aller en bateau acheter mon pain à Cassis. Donc, c'est 10 ans, 10, 12 ans. Donc, assez vite, un goût pour les échappées maritimes, quand bien même se limitait-elle à quelques centaines de mètres du bord, puisque la consigne était qu'il fallait me voir aux jumelles. Mais ça permet quand même un certain éloignement. Donc oui, une enfance heureuse et une enfance pétrie d'art, de toutes sortes d'art, que ce soit la danse, le théâtre, que ce soit la musique, notamment le chant, beaucoup de chant choral à cette époque-là, avant de passer à des pratiques instrumentales plus diverses.
Mais à cette époque-là, vous avez donc une éducation qui est aussi une éducation tourné vers l'économie ou c'est vraiment le monde des artistes et...
L'économie. Non, assurément pas. À cette époque-là, je vais à l'école, enfin comme tous les jeunes enfants, enfin je crois. Et à côté de l'école, je fais beaucoup de musique, de théâtre, de choses comme ça qui passent, je crois, dans mon environnement immédiat comme des choses plus essentielles que le reste. Et ça a été un peu la ligne directrice de mon éducation. Apprends à écrire, à parler, et puis pour le reste, fais autre chose. Et c'est à peu près doté de ce bagage que j'ai poursuivi dans un système scolaire et universitaire ensuite.
Mais quand on a 10 ans, qu'on se promène en bateau, voilà, qu'on vit une aventure personnelle et humaine, on a envie de faire quoi comme métier ?
À l'époque, je crois que je voulais être. C'était pas très précis. La notion de métier n'était pas très très précise, je pense, à l'époque. Donc, si on m'avait demandé ça, j'aurais dit pilote de bateau, sans doute à cette époque-là, pilote d'avion, parce que je les voyais traverser le ciel méditerranéen, mais rien de très précis. On parle là de 10-12 ans. Hein. Plus tard, c'était musicien de façon très affirmée. Et plus tard encore, c'était très peu clair, je crois.
Alors, vous parliez tout à l'heure, pardon, de musicalité, de personnes qui étaient autour de vous. Donc, on a quand même une impression d'une musique plutôt. Enfin, moi, la représentation que j'en ai, c'est plutôt une musique classique ou quelque chose qui est voilà, sur des enseignements plutôt traditionnels. Et quand je vous ai posé la question, quel est le titre qui, à vos yeux, est synonyme de votre enfance ? Et là, vous me répondez Michael Jackson.
Oui, donc, ouais, bon, Michael Jackson, oui.
Alors, autre monument, hein, après Tino Rossi, on change un peu de continent, on change d'âge. Et là, une chanson qui est assez peu connue, qui s'appelle Ben. Pourquoi vous avez choisi ce titre ?
Ben d'abord parce que Michael Jackson, quand il la chante, est enfant, tout enfant. C'est un enfant miraculeux, magique. Ben, c'est un des grands succès de la Motown. Et la Motown, pour moi, c'est sans doute la maison de disques, l'une des très grandes. C'est aussi une façon de dire que la musique noire est sans doute ce qui m'a structuré en dehors de la musique classique. Ce qu'il y a aussi d'extraordinaire dans cette chanson, c'est certes tout Jackson est déjà là, et la pureté de la voix, le timbre de voix est absolument remarquable. Alors par contraste, à l'âge qui était le sien, moi je chantais dans ce qu'on appelait des chorales, des chœurs d'enfants, etc. Et j'aimais bien ce rapprochement, c'est-à-dire qu'il a été, il fait partie un peu, vous savez, de ces rencontres un peu matricielles, c'est-à-dire qui vous fondent, qui vous forment. Et la rencontre avec Michael Jackson à cette époque-là, on n'est pas exactement contemporain, mais enfin disons qu'on n'est pas si éloigné que ça. A été pour moi, oui, fondatrice.
Il n'est pas venu à Cassis avec son chapeau et son
égard. Et non, pas lui.
Bon. On l'écoute en attendant. une voix angélique sur We Do Bees avec Michael Jackson dans le jukebox de la vie de Frank Vidal. Frank Vidal, donc votre rencontre avec Michael Jackson dans l'esprit choral. Vous dites que c'est ce qui vous a structuré, en tout cas en termes de musique black. Cette musique black qui venait de la, donc la Tamla Motown et Marvin Gaye, Temptation, enfin toutes ces grandes formations noires, ça apporte quoi justement ? C'est en quoi ça vous structure ?
Ce qui me structure, c'est c'est quoi ? Cette appétence pour la musique et le partage dans la musique, c'est ce lien très fort entre musique et politique. Et vous avez cité Marvin Gaye, mais dans son cas, c'est flagrant. Ce mouvement de la revendication noire en même temps, donc c'est au travers de la musique une forte attirance, voire une passion pour la chose américaine et pour l'histoire du peuple américain. Et nous, si on parle du peuple américain, on parle évidemment des Africains américains. Et puis au-delà, c'est cette quoi ? On dit, nous, cette aisance rythmique, cette évidence rythmique, alliée, dans le cas de Jackson, à une expressivité qui est magistrale. Donc tout ça, on le retrouve dans la musique noire. Et puis, on a aussi en permanence, quand on s'intéresse un peu à ces moments de la musique, cette chapardise, mais c'est plus que ça, c'est ce vol permanent que vont opérer les industries blanches à l'égard de cette musique noire. Et ça, c'est fascinant à voir. Donc, l'industrie blanche de la musique nord-américaine prend la créativité noire, l'aseptise et en fait des choses un peu sucrées qui sont ensuite revendues.
Ce qu'on a beaucoup eu dans les années 60, fin 60 en France, avec toutes les reprises, notamment Claude François ou Richard Anthony, qui ont énormément repris. Des grands succès américains.
Ah ouais, c'est exact. Et alors, pour certains d'entre eux, j'ai une affection particulière parce qu'ils ont su les reprendre et parfois en y ajoutant quelque chose qui les rend acceptables et pas de simples
copies.
De simples copies qui seraient sans goût ni saveur. Et quelques artistes de talent français ont su s'approprier ces grands thèmes musicaux, ces grands standards de la musique noire. Et puis derrière aussi, il n'est jamais très loin, absente, la dimension fortement spirituelle de cette musique noire. Donc j'insistais sur la dimension politique, mais le politique, le spirituel et le musical sont indissociables dans leur expression chantée, dans leur expression jouée. Et c'est ça qui m'a toujours fortement, fortement attiré.
Alors c'est ce qui vous a donné envie de devenir musicien professionnel, parce que c'est un petit peu ce que vous nous expliquiez tout à l'heure. Deuxième envie. Vous vouliez être musicien professionnel, vous vouliez être quoi, chanteur, rockstar devant ?
Non, j'ai une
bassiste
formation...
Bassiste derrière ?
J'ai une formation musicale qui est une formation musicale classique dans le chant et puis après dans l'orchestre symphonique puisque j'étais trompettiste. Donc ça c'est pour la formation principale avec quelques petites incartades dans le domaine de la musique folklorique provençale où là j'ai pas mal sévi aussi dans toutes ces musiques à danser... avec le galoubet, le tambourin, etc. Mais ça, c'était... j'allais dire, c'était par divertissement, mais c'était très, très sérieux, parce que, encore une fois, le renseignement provençal méditerranéen y participait pour beaucoup. Non, c'était une formation, et c'est toujours une formation qui me rend éminemment service, de musicien classique. Et donc, quand je disais que je voulais être musicien, ce qui me fascinait à l'époque, c'était le travail de composition. Le travail, donc, de composition et d'orchestration ou de réorchestration. C'est là-dessus que j'ai pas mal travaillé, avant, vous le voyez, apparemment, d'y renoncer. Mais c'était cette mise en scène du son dans l'espace, ou cette mise en espace du son, voilà, cette création de quelque chose qui, par essence, ne se fixe pas et n'a pas de support, qui me fascinait. Vous travaillez, encore une fois, sur du son, c'est-à-dire sur une vibration aérienne, donc sur pas grand-chose. Vous travaillez sur du temps, sur de la mise en volume d'une matière sonore. Et ça, c'était ma fascination. Donc l'écoute du son, l'écoute des silences, l'écoute du moment où il faut que le son soit et où le moment où le son doit disparaître parce que c'est à ce moment-là que la musique va se créer.
Mais c'est dans la production du son ou c'est dans l'écriture pour qu'elle soit rejouée, ce qui est pas à mon avis la même approche, c'est-à-dire que écrire une partition, c'est donner la possibilité aux autres de la jouer, alors que la jouer soi-même, peut-être sans partition, et là on va retrouver d'autres velléités, par exemple dans le monde du jazz, où effectivement on est sur d'autres approches. Qu'est-ce qui vous intéressait le plus ?
Oui, c'est une très bonne question parce que après on peut faire un parallèle avec plein de choses. La musique que l'on m'a enseigné et la musique que j'ai cru à un moment donné pouvoir créer, c'était une musique écrite d'avance qui laisse une liberté à l'interprète, mais qui est celle de l'interprétation, justement, qui est une forme de création, bien sûr, mais quand même sur la base d'une musique écrite. C'est pour ça que jamais, lorsque l'on me parle d'entrepreneur et qu'on fait des parallèles parfois en disant oui, c'est un chef d'orchestre, bon, vraiment pas sûr, parce que le chef d'orchestre, il suit une partition. Alors certes, il interprète, certes, il s'appuie sur des compétences multiples, certes, il doit faire en sorte que l'ensemble de ses compétences individuelles produisent un collectif qui ait du sens ou qui soit audible. D'accord. Mais c'est pas ça. Je suis beaucoup plus en sympathie désormais, mais très vite. Mais ça a été une prise de conscience compliquée. C'est-à-dire quand vous êtes formaté dans un système qui vous dit que ce qui est écrit musicalement est une forme de vérité, il a fallu que ce soit au travers de ce système que je découvre les musiques improvisées dans le domaine de la musique classique. Et longtemps, la musique classique a été une musique largement improvisée. Ça n'est qu'à partir du XVIIIe siècle qu'elle est systématiquement ou plus systématiquement fixée. Auparavant, elle est très libre. Que j'en suis arrivé à découvrir et apprécier les musiques improvisées, le jazz, le rock, enfin, toutes les musiques. Je ne fais pas beaucoup de différence. Enfin, pas beaucoup. Je fais des différences de catégorie, mais pas des différences d'appréciation, je vais dire ça comme ça. Et donc la musique improvisée me semble beaucoup plus proche de ce qu'est l'entrepreneur, parce que la musique improvisée, quoi qu'on en ait, c'est pas la panique ni le n'importe quoi. Ça s'apprend au sens où on en acquiert une certaine maîtrise. Ça peut s'enseigner, mais ça se découvre. C'est quelque chose qui passe par une relation assez interpersonnelle avec des sortes de maîtres, de mentorat. C'est pas de la duplication et c'est ça qui m'a très vite beaucoup plus intéressé.
Vous avez fait le choix de... Je vous ai posé la question de quel était votre artiste ou groupe préféré. Vous avez choisi quelqu'un qui effectivement est dans la rigueur, mais en même temps beaucoup dans une approche très jazz, c'est George Benson. Ouais. Vous partagez pas forcément mon analyse.
Non, c'est en vous l'entendant dire, est-ce que j'ai un artiste préféré ? Voilà, j'ai répondu à cette question parce que vous me l'avez posée, tout en ayant bien envie de pas vous répondre parce que j'aurais du mal à dire quelle est l'idée même d'artiste préféré.
C'est renoncer, donc par essence c'est mauvais, mais
voilà, j'ai deux types de réponses. D'abord, je suis incapable de choisir, mais pourtant j'ai fait un choix et je pourrais vous l'expliquer. Et ensuite, je connais tellement je connais tellement. J'ai une idée de ce que peuvent ressentir ou vivre les artistes que donner ma préférence à l'un, ça veut dire que je la retire à l'autre et je m'en veux de ce geste de désaveu que je commets à l'égard de ceux que je ne reconnais pas comme étant mes préférés. Bon, tout ça très compliqué pour dire que finalement, j'ai indiqué George Benson. Pour différentes raisons. D'abord, c'est un guitariste remarquable, c'est un guitariste de jazz extraordinaire qui a traversé l'histoire du jazz, du bebop cool, en passant par des choses beaucoup plus de variété ensuite. Et il l'a fait avec un égal bonheur. J'ai hésité. J'aurais pu dire Miles Davis aussi, qui, d'une certaine façon, est un musicien. Alors, difficile là aussi de faire des comparaisons, mais qui est un plus grand musicien nettement que George Benson. Mais j'aime bien cher George Benson cette simplicité, cette facilité de passer à des choses, des standards qu'il va jouer, des choses un peu faciles qu'il va chanter, voilà. Donc c'était un clin d'œil à la guitare, parce que je suis guitariste aussi, enfin aussi aujourd'hui, on va dire. Voilà, donc Benson.
On écoute.
They say the neon lights are bright on Broadway. The just gives me the blues.
Franck Vidal, on a compris que vous aimiez la musique, ça on l'a vu, mais alors pourquoi vous n'êtes pas devenu musicien professionnel ?
Pourquoi ? Parce que quoi ? Ben je ne sais pas, ça ne s'est pas trouvé. Je pense qu'au moment où ça aurait pu se faire, il aurait fallu que je rencontre celui ou celle qui m'aurait dit que ça pouvait être quelque chose de sérieux.
Vos parents considéraient pas que c'était sérieux. Ils vous ont bercé dans le monde de la musique et en même temps, enfin, je sais pas quelle profession exerçait-il et en quoi ils voyaient ça comme non sérieux.
Mais je crois que c'était pas un milieu dans lequel la musique devait être une profession. Voilà, ça n'a jamais, enfin voilà, ça n'est pas venu à l'idée, je pense, de qui que ce soit de me dire que ça pouvait être un métier. Ça semble un peu bébête de dire
comme
ça
gymnastique.
Comme ça.
Voilà.
Oui, voilà, c'était très présent, mais pour autant, on faisait pas. Voilà, ça ne s'est pas trouvé. Donc j'ai fait des études de droit, j'ai fait des études de sciences politiques avec plus ou moins de bonheur. Et puis j'avais des rapports avec la musique aussi qui étaient parfois contrariés, qui étaient un peu erratiques. Hein. Je vous ai dit, j'étais trompettiste, puis j'ai fait du piano, du violoncelle. Aujourd'hui, je suis guitariste. En fait, tout ça n'est pas très linéaire. Et s'il y a bien une chose qui est nécessaire en musique, c'est une forme de constance. Et musicalement, au moins, j'en ai pas fait la démonstration très très forte. Donc ça aussi, ça éloigne un peu des cursus de très haut niveau qui sont nécessairement étrangers à ce papillonnage qui a été un peu le mien, au moins musicalement.
Et ensuite, vous décidez donc de rentrer dans ce qu'on appelle la vie active.
Oui.
Et là, qu'est-ce que vous faites comme métier ?
Moi, ce qui me passionnait, c'était de voir comment des gens sur un territoire pouvaient faire des choses ensemble. Et ces gens, ils étaient entrepreneurs, ils étaient maires, conseillers généraux, ils étaient responsables associatifs, ils étaient hommes d'église, ils étaient peu importe ce qu'ils étaient. Puis un jour, ils se disaient, ben voilà, on va faire des choses ensemble pour développer des territoires. Et c'était ça ma passion, c'était le développement territorial. Et la chose publique, la chose politique, mais entendue comme, on est là, donc on a le choix, soit on se dispute et on défend chacun notre petit territoire et notre petite affaire, nos adhérents, nos machins, nos votes, nos électeurs, nos actionnaires, que sais-je, soit on travaille ensemble pour faire quelque chose. Je veux dire, c'était la ligne de conduite de mes intérêts dans mes études et puis dans mon premier job, qui était un job dans une institution qui était la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où je me suis occupé de développement de territoire au travers de l'éducation, et notamment au travers de la création de réseaux de lycées. Et alors, de là est venue une certaine appétence pour l'éducation, et j'en ai fait un peu le fil rouge, c'est-à-dire qu'il me semblait que l'enseignement et l'éducation dans un territoire français, mais également au niveau d'un continent comme l'Europe, et puis n'en parlons pas au niveau du monde, c'était certainement le bon moyen d'assouvir cet intérêt pour le développement des personnes, des sociétés.
Donc vous tombez en fait dans l'éducation un peu par hasard, comme un moyen et un ciment de réaliser, j'allais dire, votre envie, votre passion, votre envie de construire et de co-construire. Avec les autres, c'est cette logique de défense des territoires et de faire grandir tout le monde autour de ce territoire ?
Oui, je tombe un peu par hasard, même si ce hasard a été conforté, guidé, aidé, ou en tout cas dans ce qu'il a fait naître, par la confrontation, le contact avec des maîtres ou des professeurs qui m'ont éveillé à ça. Mais oui, une forme de une découverte qui est, oui, un hasard. J'aime pas beaucoup le mot de hasard, mais comme je dis je n'y crois pas, mais donc oui, hasard, si vous voulez.
En entrepreneuriat, on appelle ça parfois la détection d'une opportunité.
Une détection d'opportunité, oui, en tout cas une conviction à un moment donné évidente que oui, c'est ça. Voilà, il y a des moments ou des situations ou des personnes ou des choses dont vous vous dites, voilà, oui, c'est ça. Alors après, vous pouvez rationaliser tout ce que vous voulez, mais le pourquoi de la chose, par hasard, si vous voulez. Allez, c'est le moindre mal, par hasard.
Et je sais qu'après, vous avez quitté donc la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour monter sur la région parisienne.
Oui.
Donc pour exercer toujours des activités autour de l'enseignement.
J'avais fait une partie de mes études à Paris, donc j'avais fait des allers-retours entre Paris et Marseille assez réguliers. J'ai exercé à Marseille, donc je l'ai dit, en conseil régional, puis à l'école supérieure de commerce de Marseille en tant qu'adjoint au directeur, puis dans une direction centrale à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille. Et puis ensuite, je me suis dit qu'en matière d'enseignement, et notamment en matière d'enseignement au management, puisque très vite, c'est ce secteur-là qui m'a intéressé, on pourra dire deux mots si vous voulez pourquoi, je me suis dit là où il se passe des choses intéressantes en France, c'est notamment à Paris, et c'est notamment au sein d'une grande chambre française qui est celle de commerce et d'industrie de Paris. Et j'ai donc, je l'ai rejoint et j'ai eu la chance d'y être bien accueilli pour pouvoir travailler sur différents projets qui avaient trait essentiellement aux écoles de management de cette chambre, jusqu'à en prendre, au tournant des années 2000, la direction d'une des écoles gérées par cette chambre de commerce.
Alors, jusqu'à maintenant, on a vu plutôt un parcours que vous décrivez comme étant plutôt un parcours de dirigeant ou en tout cas de détection d'opportunités. Mais
ouais.
Moi, je sais, puisqu'on a eu l'opportunité de travailler ensemble, enfin la chance pour moi aussi, de savoir que vous avez été aussi entrepreneur. Alors, avant que vous nous racontiez votre aventure entrepreneuriale, ce que je fais, c'est que je vais vous citer le morceau que vous avez choisi, puisque je vous ai demandé quel est le titre que vous associez à votre première entreprise. C'est une Ronnie Jordan, Get to Grips. Et là, on va l'écouter, puis ensuite vous allez nous dire, un, pourquoi vous avez choisi ce morceau-là, et puis deux, nous raconter cette aventure entrepreneuriale.
Get to Grips.
Ronnie Jordan, get to grips.
get to grips and handle your soul. I got a tale that's never been told. Get to grips and handle your soul. I got a tale that's never been, never been, never been, never been, never been, never been sold. And I say, I got a tale that's never been told. Get to grips and handle your soul. I got a tale that's never been told. Get to grips and handle your soul. I got a tale that's never been, never been, never been, never been, never been, never been told. I got a tale that's never been told. Get to grips and handle your soul. I got a tale that's never been told. Get to grips and handle.
Cet environnement jazzy, c'est exactement l'état d'esprit dans lequel vous avez monté votre entreprise, Franck ?
Oui, c'est de l'acid jazz et ça me plaît bien. Et Ronnie Jordan, c'est un grand guitariste assez classique dans ce qu'il faisait et qui est un de ceux qui, au début des années 90, ont introduit le rap dans la musique jazz. Le rap, certains disent qu'il est né dans le jazz, je suis assez de cette école-là. Et... s'il y a bien une chose qui je pense, a retravaillé le jazz, c'est le rap à un moment donné. Aujourd'hui, c'est la techno. Et Ronnie Jordan est sans doute un des pionniers dans ce domaine-là. Donc, en ce sens, il a fait œuvre d'entrepreneuriat, même si aujourd'hui, il joue à Las Vegas des choses un peu sirupeuses. Et je l'ai écouté récemment. Bon, c'est plus au Ronnie Jordan-là qui se produit, mais ça reste bon quand même. Alors, associer ça à un projet entrepreneurial, oui. Tout mon parcours, je le conçois comme une façon d'entreprendre ou de travailler pour des entrepreneurs, que ce soit dans le cadre de création d'écoles de management. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment plus entrepreneurial que d'autres, deux moments entrepreneuriaux, j'allais dire, dans mon existence. Le premier, c'est un entrepreneuriat particulier qui me tient à cœur et je n'ai pas honte de dire que d'utiliser le mot entrepreneuriat, c'est dans le domaine du politique, puisque j'ai eu une activité politique assez... assez intense à un moment donné, de responsabilité locale dans un parti politique, puis de mandat électif pendant pas mal d'années. Toujours avec cette même ambition de travailler pour un collectif avec d'autres et de faire en sorte que localement, sur un territoire, des développements puissent se passer, des développements économiques notamment, culturels, etc.
Quand vous avez envie que ça se fasse, vous vous engagez et vous vous dites il faut que j'y aille moi pour le faire.
Oui, c'est ça. Vous savez, moi je me sens à l'aise avec détection d'opportunités, réunir des ressources en mobilisant des réseaux et puis faire de l'émergence organisationnelle, ça me va bien. Et il y a des moments où on sent qu'il faut le faire. Donc ça, c'était le premier moment assez jeune où j'ai pu mener cette aventure-là. Après, mais je le range quand même dans la catégorie de l'entrepreneuriat. La deuxième, ça a été véritablement la création d'entreprises, de deux entreprises simultanément, qui étaient dans le domaine de l'agroalimentaire, autour d'une exploitation agricole. Où il s'est agi de trouver des débouchés pour un produit qui était un produit du terroir, qui était tous les produits fabriqués autour du lait de chèvre en région marseillaise, avec l'idée de fédérer autour de ce projet des éleveurs, avec la création, la construction d'une fromagerie top niveau, au niveau de ces normes, puis de développer en même temps les circuits et les circuits de commercialisation de ces produits-là.
Mais vous aviez plutôt une approche apprenti chimiste ou une approche berger dans les montagnes qui allait voir les autres bergers et les autres producteurs ?
Je crois que ce qu'il y avait de fascinant dans cet aspect-là, c'est qu'il y avait, les deux. Il y avait les deux, c'est-à-dire c'était à la fois un travail de lobbying assez intense pour faire reconnaître un produit, et ça c'est du lobbying qui était à dimension politique, si on peut dire. Il y avait une activité commerciale, il s'agissait de vendre un produit et de faire en sorte que cette activité soit économiquement viable. Et puis il y avait une activité plus de production, où là effectivement c'était à minima connaître le métier, que ce soit celui de l'élevage, de la fabrication, et donc une certaine pratique pendant combien de temps ça a duré, presque 3 ans, de ces affaires-là. Avec toujours un mélange de je le fais, il y a une orientation business très affirmée, il y a une orientation développement territorial très forte. Il y a une aventure humaine qui est intéressante, des gens divers, des gens d'horizons très diversifiés aussi, certains qui ont été un peu massacrés par l'existence. Donc voilà, il y a tout ça là-dedans, et ça a été une belle aventure entrepreneuriale dont je me suis retiré à un moment donné pour renouer avec des activités qui ont trait à l'éducation et à la formation. Une activité qui a perduré, et c'est bien là l'essentiel.
Ça ne doit pas être évident quand on a vécu, j'allais dire, dans cet environnement, de revenir sur le monde éducatif, en plus dans une chambre de commerce, donc avec un esprit un peu parfois normé, et de revenir, ça change un peu de l'arrière-pays quand même.
Oui, mais non. Alors vous savez, dans le domaine de l'agroalimentaire, les normes sont à peu près aussi draconiennes, sinon davantage que dans le domaine de l'enseignement et de l'éducation. Non, ça n'est pas été aussi difficile, puisque parce que je l'ai fait sans douleur et apparemment sans regret. Donc non, je crois pas. Je pense que l'existence est faite de phases, de périodes. Ce que je m'applique à lire, en tout cas peut-être chez moi, en tout cas chez les autres, c'est la cohérence de ces phases, en tout cas celle qui est exprimée par celui qui en est l'acteur, par celui qui en est l'entrepreneur. Et souvent il y a des raisons qui sont étonnantes ou qui sont pas les premières auxquelles on peut penser. C'est ça qui m'intéresse.
Alors, sans douleur, c'est ce que vous exprimez, sans grande difficulté, j'ai du mal à vous croire, mais vous avez la modestie de nous le dire. En tout cas, moi, je vous ai posé la question, quand vous rentrez d'une dure journée, quel est le titre que vous écoutez pour vous ressourcer ? Et là, on revient encore à un monument de la chanson. Alors là, on est toujours aux États-Unis. Là, on n'est plus chez les Blacks, on est chez les Blancs. Et là, vous avez choisi Elvis Presley, Hound Dog. On l'écoute. You ain't nothing but a hound dog, a crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, a crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high. Bye. là, on était en train de se déhancher tel Elvis Presley dans le studio, non ?
Elvis Presley, un immense géant. On parlait tout à l'heure de Michael Jackson, mais on aurait pu en citer d'autres. Oui, c'est un de ces fondamentaux incontournables desquels est née une grande partie de la musique que j'écoute. J'allais dire qui s'écoute, non, ce serait déraisonnable, mais enfin que j'écoute en tout cas. Et donc une petite visite du côté de Elvis Presley avec toujours beaucoup de bonheur. Et puis voilà, après derrière il y a tout le drame de l'existence de cet homme, toute la manipulation par le système musical dont il a été l'objet. C'est ça aussi qui est impressionnant. C'est l'un des premiers, une des premières grandes stars blanches nord-américaines qui suit les plâtres d'un système de starisation qui bousille ces stars. Et ça aussi, c'est intéressant à regarder.
C'est une vision schumpeterienne, mais pas forcément dans le bon sens du terme, quoi.
Ouais, c'est la naissance d'une industrie. Enfin, la naissance, non, parce qu'elle existe déjà. Mais c'est la marche à la professionnalisation d'une industrie musicale qui prospère en détruisant ce qu'elle a tenté de faire émerger. Et c'est vrai qu'il y a ce process de destruction que l'on, en même temps que nécessaire, semble-t-il, à une création. Et ça, c'est fascinant dans les arts en général, c'est exacerbé dans le rock. Et Elvis Presley en est l'un des initiateurs, si je puis dire, à son corps défendant, bien sûr. Mais en ce sens-là, il m'intéresse aussi.
C'est un état d'esprit que vous avez essayé de conserver quand vous avez continué en tout cas vos activités au sein de la Chambre de commerce et qu'on vous a confié la remobilisation d'une école qui était Advancia. C'est-à-dire le fait de se dire, va falloir que je développe, va falloir que je reconstruise, mais en même temps, il faut pas que j'industrialise trop pour casser.
Oui, j'ai chevillé au corps l'idée que pour développer, il faut savoir pas casser, mais changer, renouveler. Et dans les mondes dans lesquels on vit, on ne peut pas développer sans remettre en cause tout le temps ce que vous faites à un moment donné qui est un objectif qui vous semble devoir asseoir la pérennité de votre entreprise ou de vos entreprises. Vous pouvez être certain que 6-12 mois plus tard ce sera autre chose et vous penserez différemment. Et malgré ce, il faut que vous fassiez rentrer tout ça dans une réflexion stratégique qui tienne la route, elle, sur plusieurs années. Et c'est cette difficulté d'articulation de ces temps qui fera le dirigeant, qui fera l'entrepreneur, je crois. Et c'est à ça qu'on s'applique à former les étudiants qui passent par Advancia. Et je crois que c'est là que doit se mesurer la réussite de l'école.
Vous vous êtes amusé à... Beaucoup d'entrepreneurs nous disent que ça a été très dur, mais qu'ils sont beaucoup amusés à créer leur boîte et à la développer. Vous vous êtes amusé dans Advancia?
Oui, il faut. Non, mais alors, bien évidemment, il faut s'amuser énormément dans ce que l'on fait. Autrement, il faut assurément pas le faire. S'amuser. Après, chacun s'amuse à sa façon, avec son style. Moi, je m'amuse énormément dans ce que je fais, même si peut-être spontanément, je suis pas d'un abord amusé ou amusant. Mais oui, le bonheur, il est d'abord et avant tout dans le rire.
On va parler juste à côté d'un j'allais dire d'une détection d'opportunité que vous avez eue aussi, c'est la possibilité de revenir à vos premières amours, c'est-à-dire à la musique et à la guitare, dans une nouvelle composition qui s'appelle le
MBQ, c'est le Manche et Ballet Quintet. Donc c'est une formation de musiciens avec lesquels j'ai des relations.
Les ballets, c'est pas ballet, quelqu'un.
C'est...
Voilà.
Non, c'est pas quelqu'un qui danse, c'est quelqu'un qui joue de la batterie avec tantôt des baguettes, tantôt des ballets. Et ces musiciens, j'ai une relation professionnelle avec eux. Cette relation professionnelle, elle est également amicale. Et on s'est retrouvé autour d'un répertoire qui est une sorte de patchwork des goûts des uns et des autres. Ça a un style qui est le sien. Mais je trouve ça épatant, n'hésitez pas à pister les rares, mais excellentes productions de ce quintet.
Donc on rappelle le nom de le...
Le Manche et Ballet Quintet.
Bon, bah écoutez, merci beaucoup. On va passer maintenant vers la fin de cette émission, et je vais vous poser la question que je pose habituellement à tous les invités. Franck Vidal, dans 5 ans, vous faites quoi ? et comment vous voyez l'entreprise que vous menez aujourd'hui, Advancia Negocia, dans 5 ans ?
Je vais vous répondre, mais avec une certaine difficulté. Je prendrai d'ici quelques jours maintenant, quelques semaines, la direction d'une autre école, d'une autre grande école sur la façade atlantique, à Nantes très précisément. Donc cette autre école, Audencia, va, m'accaparer, j'en suis certain, et retenir solliciter toute mon énergie, toute mon attention, et cette école le mérite vraiment, tant c'est une belle école. Donc vous dire ce que sera Advancia Negocia dans 5 ans, je n'en sais rien. En ce qui me concerne, j'espère la regarder toujours avec cette affection forte, puisque c'est une école que j'ai portée, emportée, accompagnée, j'ose le dire, recréée.
Et quant à vous, alors, est-ce que vous continuerez dans le manche et balai quintet ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez reprendre dans l'agroalimentaire ? Qu'est-ce que vous allez faire ?
Au bout de 5 ans, je pense que je serai toujours à Nantes. Cela étant, j'espère y découvrir d'autres aventures musicales. C'est un territoire qui est passionnant par son dynamisme, par cette alliance des énergies qu'il sait façonner. Et je suis persuadé que avec d'autres là aussi, musicalement et autrement, on saura même de trouver d'excellentes opportunités.
Bah écoutez, je voulais vous remercier. En tout cas, moi, à titre personnel, j'étais très fier de vous recevoir ce soir. On a eu la chance de partager pas mal d'années de travail ensemble et c'était un grand plaisir de vous recevoir et de recevoir avant tout l'entrepreneur qui a guidé cette maison, Advancia et Negocia, pendant pas mal d'années. Franck Vidal, merci beaucoup, très bonne soirée. On va se quitter avec un morceau qui ressemble un petit peu à ce que vous jouez parfois dans le Manche et Balai Quintet, qui est un morceau de Kurt Rosenwinkel, j'ai pas fourché,
parfait.
Qui s'appelle Zivago, qui est Kurt Rosenwinkel, vous le connaissez ?
Je le connais, c'est beaucoup dire, j'ai eu l'occasion de l'écouter plusieurs fois et je le piste partout où il peut se produire. Il habite Berlin, il est américain, c'est un prodige de la guitare, mais au-delà d'être prodige de la guitare, il y en a beaucoup. C'est un compositeur hors pair et un sens de l'harmonie et du passement rythmique absolument sans égal.
Eh bien écoutez, merci en tout cas, à très bientôt dans de nouvelles aventures et longue vie à vous et à vos entreprises.
Merci Stéphane.